Bonjour tout le monde. Enfin, Spectaculaire commence avec un tout petit peu de retard à 14h03 ce mercredi 14 juin 2023, émission 302. Christophe Roland au micro, je suis en fort bonne compagnie. Camille Rona et François Mardi-Rossian sont de retour, ils sont déjà venus. Émission 267, c'était il y a pile un an, le mercredi 15 juin 2022. Ils viennent de nous parler du festival Superspective, édition numéro 5 cette année. C'est du vendredi 16 juin jusqu'au dimanche 2 juillet. Il est question de musique. Comment la qualifier ? Musique contemporaine, musique répétitive, musique minimaliste ? Non, j'ai la définition de Camille que je donnerai tout à l'heure à l'antenne. Pas de chronique à venir de Francis, il est encore absent aujourd'hui. Sera-t-il de retour la semaine prochaine ? C'est souhaitable. J'ai presque tout dit. Non, le lieu de ce festival, le festival Superspective, se trouve à lieu à la Maison de Lorette sur deux sites, Terrasse Nord et la Terrasse Sud. C'est sur les pentes de Fourvière et c'est plus ou moins 5 minutes de Saint-Jean. Alors ça dépend, François indiquait 7 minutes pour monter et 2 pour redescendre. Ouais, c'est peut-être un peu l'effort à fournir et peut-être un peu important pour sortir du métro Saint-Jean ou de la place Saint-Jean et se rendre donc à cette Maison de Lorette. Vous voulez en savoir davantage sur cette 5e édition ? Eh bien patientez dans quelques instants, vous saurez tout. On va commencer avec du Thylacine. Et comment ça sera-t-il présent ? Non, mais le titre Satie numéro 1 est extrait, certes extrait de son album Timeless, et ce titre est inspiré, est basé c'est le terme anglais, il est fondé, il s'appuie sur la gymnopédie numéro 1, jouée même par Éric Lesage. On verra le commentaire que fera François, pianiste de son état sur cette version, et ce morceau donc, parce que Satie, il y a une importante soirée, vous le saurez tout dans quelques instants. Vous nous écoutez, vous faites très bien, si c'est sur internet, c'est radiocanu.org, vous pourrez également trouver le blog de l'émission Spectaculaire, et si c'est si c'est à Lyon, c'est le 102.2 de la bande FM. Bonjour François.
Bonjour Christophe.
Bonjour Camille.
Bonjour Christophe.
Donc, nous écoutions Thylacine pour introduire cette cinquième édition du festival Superspective à la Maison de Lorette, c'est à Lyon, sur les pentes de Fourvière. L'adresse précise, oui, je dois la voir, elle doit apparaître quelque part.
42 Montée Saint-Barthélemy.
Il est précieux, Camille, c'est très bien. Vous étiez déjà venu, Camille François, pour l'émission 267, le mercredi 16 juin 2022, pour nous parler dans un premier temps de vous et dans un deuxième temps de l'édition 4, l'édition numéro 4 qui était donc l'année dernière. Cette année, nouvelle édition, le portrait, on va peut-être s'en passer. Si, peut-être pourriez-vous faire un portrait à travers votre avis sur ce que nous avons écouté de Thylacine. Ce ne sera pas ce qui sera donné. C'est quelle soirée d'ailleurs? Je l'ai sous les yeux, Camille François.
C'est le 17 juin, donc le samedi soir. C'est le 17 juin, François joue un long récital, Satie, je pense qu'il en parlera tout à l'heure.
Il y avait un jeu de mots, on aurait pu écouter autre chose, c'est ça?
C'est ça, et la soirée s'appelle
Saturday Night Fever.
C'est à 20h30, hein, avec des tarifs qui sont intéressants, hein, il faudra en parler. Donc, est-ce que c'est une bonne première question, ça, dresser un portrait de vous-même à travers ce qu'on a écouté? Ça vous a plu, pas plu? Trop lent, trop bien, trop pas bien, trop rapide?
Pour faire un portrait de notre projet, de ce qu'on essaye de faire à travers notre avis sur cette musique, on essaye de défendre une idée de la musique contemporaine qui soit pas snob. Donc le premier truc à dire, je trouve, c'est que je trouve ça intéressant en fait que une musique comme celle de Satie, qui est associée à de la musique savante, à la tradition, on va dire, de la musique classique et donc à la musique contemporaine, qu'elle soit questionnée, qu'elle soit appropriée par en l'occurrence un musicien de musique électronique. Et c'est pas totalement incohérent. En fait, la réponse est j'aime pas. Je veux dire pourquoi.
Hop,
mais en fait,
voilà.
Je trouve pas ça totalement incohérent de travailler cette musique, de remixer la gymnopédie avec de la house music, puisque Satie insistait sur le fait que la gymnopédie c'était un genre de danse. C'est une musique c'est de la dance music et c'est intéressant de le présenter comme ça. Et peut-être que il y a toute une tradition, hein, assez longue de reprise de Satie en électro ou en musique lounge depuis Buddha Bar. Parce que ça s'y prête très bien, vous voyez la façon dont le piano est mixé, on a l'impression qu'il est sous 10 ou 15 mètres de fond, tout à fait étouffé, et c'est il y a un côté musique d'ascenseur, musique de fond, comme ça, un peu feel good, et en fait c'est exactement ce que Satie a inventé au tout début du XXe siècle, avec le concept de musique d'ameublement, dont on vous parlera peut-être un peu plus tout à l'heure, mais l'idée d'une musique qui soit œuvre de décoration, qu'on puisse écouter ou ne pas écouter dans un rapport de totale liberté. C'est Satie qui a inventé ça à travers un petit cycle de composition. Et donc c'est justice si plein de musique d'ameublement s'empare de sa musique.
François, est-ce que la vie est partagée de Camille? Un peu,
oui,
pas,
il sévère, est partagé,
mais pas tant que ça, peut-être.
Il est partagé, il est peut-être un peu plus virulent, dans le sens où j'ai l'impression qu'en plus le disque que tu viens de passer... il a commis ça sur d'autres compositeurs que Satie, donc
sur beaucoup,
notamment Verdi et d'autres choses. Et bon, forcément, j'écoute ça moi avec mes oreilles de musicien pianiste et j'y vois que des incohérences en fait. Le fait de mettre un beat à deux temps sur une pièce qui a trois temps, je trouve ça ridicule. Le thème est, il y a aucun phrasé, c'est martelé. Enfin, ça sert à rien, n'est servi, ça ne sert à rien en fait, dans le sens ça sert pas Satie et ça sert pas sa musique à Thucydide ou Thylacine, je sais plus comment ça s'appelle. Et Thucydide, c'est pas mal.
C'est toujours beau là. Je crois que ça porte un nom, la réductio dans l'argumentation, le fait de
en fait en écoutant ce morceau, j'avais juste envie de boire un vodka melon. J'ai l'impression de dans une boîte de nuit à 2h du matin à Saint-Tropez et d'être un peu ivre et d'avoir ça en fond pour un petit peu me faire décuver, tout simplement.
C'est pas bon ça, le vodka melon?
C'est très bon, mais pas maintenant.
Auditeur, auditrice, je n'ai peut-être pas tout à fait indiqué. Le portrait donc de nos invités, on va pas le refaire, il s'était déjà présenté. Camille Rona, professeur de philosophie à Alter, j'ai manqué la fondation également, enfin comment qualifier l'association dont vous êtes aussi, à laquelle vous appartenez, à Alter.
Alors j'en suis plus tout à fait membre depuis 3 ans maintenant, mais c'est les alternatives catholiques, les altercatos qui sont au café Le Simone, 45 rue Vaubecourt, Lyon 2. Allez-y, c'est un lieu très intéressant.
Et François Mardi-Rossian, vous pianiste, on a pu vous entendre, je crois, mais presque tous les deux ensemble en janvier, François, vous jouez et Camille, présentez un peu. C'était
lors de notre deuxième Hors les Murs à l'Opéra de Lyon, où cette année, donc en janvier 2023, on avait fait toute une semaine sur Piano Underground, sur des compositeurs, des compositrices et des interprètes. un petit peu en dehors des sentiers battus. Et notamment, pour rebondir là-dessus, cette année aussi, on va recollaborer avec Camille dans une œuvre où moi je serai piano et Camille sera à la voix.
Les dates sont-elles déjà arrivées ou un moment peut-être?
Le 21 juin notamment, c'est la fête de la musique. Je ne sais pas comment on égrène la programmation, mais en tout cas le 21 juin, fête de la musique partout en France, et partout dans le monde d'ailleurs je crois. On va avec Camille, après l'arrivée extraordinaire de François Tusk. François Tusk, que tous les auditeurs de Radio Canu connaissent parce qu'ils ont un engagement fort sociétal, et François Tusk est une icône de la musique engagée. Il a 85 ans, il vit à Paris et les programmateurs l'ont un peu oublié et nous non. Et on le fait revenir à Lyon parce qu'il a été important aussi à Lyon. En tout cas chez les disquaires, on envoie souvent des disques de François Tusk à 80-100 €. Il vient faire un récital solo, unique, c'est gratuit. Et juste après, à 22h, on fait une œuvre assez emblématique des musiques qui sont engagées, qui expriment quelque chose et qui s'inspirent des luttes sociales pour les esthétiser tout simplement et pour les rendre encore plus publics. Une œuvre de Frédéric Jewski, compositeur qu'on avait reçu lors de la première édition, qui s'appelle Attica Coming Together. Mais on peut inverser aussi, Coming Together Attica.
C'est très bien, vous avez donc déjà commencé un petit peu, François, à parcourir cette programmation. Qu'est-ce qu'on peut peut-être, moi il me semble, ça peut toujours être intéressant de marquer un peu une sorte de temps de parole. Donc mettons, avant d'entrer vraiment dans le détail de cette cinquième édition, est-ce que je vous ferais rebondir tous les deux sur ce propos qui avait été donc tenu par Camille, définition donc de cette musique contemporaine que vous souhaitez présenter dans ce festival Superspective. Qu'est-ce que la musique contemporaine? Une musique hybride, nouvelle, une musique de création qui repose sur l'articulation et l'hybridation des langages musicaux. C'est toujours ce que vous souhaitez donc faire pour cette édition, avec peut-être du teasing. Quels seront les grands noms qui sont Charlemagne Palestine et de retour? Il était déjà présent, je crois, à l'édition précédente.
Alors Charlemagne revient le 30 juin à la Basilique de Fourvière pour une performance à l'orgue.
Et quel âge a-t-il, lui?
Il a 80, je crois, pas encore, non?
Il a 70 CD.
On va vérifier ça. Mais donc, il revient pour une performance d'orgue qui s'annonce magnifique à Fourvière et qui sera introduite par ce qu'on peut appeler une performance de chant grégorien, un duo grégorien qui viendra proposer une demi-heure de première partie.
Donc on est complètement là dans l'hybridation.
On est totalement dans... En fait, c'est intéressant, si d'hybridation, c'est mettre un mot très savant sur... enfin, pas spécialement savant, mais en tout cas un mot qui semble technique et un peu compliqué sur...
Disons un mot, une étiquette.
Ouais. Sur une réalité qui est très simple, c'est qu'en fait, ce qui ressort de cette définition de la musique contemporaine ou des musiques contemporaines, c'est qu'il y a un flou au moment de les classer. Et une impossibilité dans les gestes tout à fait automatiques de dire ça c'est du jazz, ça c'est du classique, ça c'est du baroque, ça c'est... Et en fait c'est intéressant même d'interroger les musiques qui semblent les plus archivées, les plus classées, les plus incontestablement par exemple liées à un genre. Par exemple le chant grégorien, pour tout le monde c'est de la musique sacrée, il n'y a pas d'ambiguïté. Et c'est vrai, mais de les présenter sous un jour qui les questionne un peu. Par exemple, le grégorien, on essaye de le présenter au festival comme une musique de création, ce qu'elle est en réalité. C'est une musique qui implique un rapport à la... déjà un geste de création, un rapport à la connaissance contemporaine qu'on a des musiques médiévales, qui sont quand même, qui remontent quand même à longtemps. Et pour avoir une idée de ces traditions, bah en fait, c'est pas un texte qu'on se rapporte, c'est pas une partition, c'est pas à des usages, et ben c'est à, par exemple, dans le cas de Bruno de la Briolle, qu'on invite pour chanter du grégorien, c'est les traditions vivantes et populaires de la musique polyphonique, la musique corse, la musique syrienne, la musique sarde. Et donc, même là, on pourrait dire qu'il y a un genre d'hybridation. Dans l'interprétation contemporaine du grégorien, bah, on cède, comme de béquilles, pour savoir comment chantaient les anciens au Moyen-Âge, de ce que continuent à chanter les chanteurs occitans, les corses. Et donc, on peut dire qu'aujourd'hui, la musique sacrée, elle est en hybridation avec les musiques traditionnelles et populaires.
Je suis assez d'accord avec ce que Camille dit et j'appuie ce propos. Mais au fond, j'ai l'impression que toutes les musiques de tout temps étaient quand même assez hybrides en fait. Quand on regarde un peu l'histoire de la musique, que ça soit chez des Beethoven ou des Schubert, ou même avant ou même après, quand ça soit un Chopin ou un Schumann ou des Prokofiev ou des Rachmaninoff, les grands noms qu'on cite tout le temps de la musique dite classique, pour pas dire savante, même si savant au fond c'est un côté prétentieux, mais c'est aussi le fait, c'est savant cette musique. Alors c'est sûr que vu de notre fenêtre de 2023, c'est dur de voir à quel point ils sont allés puiser dans le populaire, dans le folklore, mais ils l'ont fait énormément en fait. Je veux dire, un type comme Chopin a passé pratiquement la moitié de sa vie à composer des danses polonaises en fait, et d'aller récolter des chants populaires, même s'il les repiquait pas, il les transcrivait pas sur des partitions, mais il avait ça dans son patrimoine génétique, il connaissait toutes les mélodies. À chaque fois qu'on lit un peu en profondeur des analyses des œuvres de Chopin, par exemple, je prends juste exemple pour que ça soit remarquable, on voit à quel point, bah tiens, cette mélodie est une suite d'une mélodie populaire polonaise. Ça, c'est une mélodie roumaine. Dans Tel Scherzo, le thème central, bah, c'est une berceuse polonaise. Et en fait, on a un peu oublié tout ça et on a tendance
Bartok à. Bartok l'a beaucoup fait
Bartok,
aussi.
C'est
Bartok,
c'est
avec Kodály également.
Oui, Bartok, tout ça, c'est ceux du 20e siècle qui ont vraiment, avec les premiers enregistreurs, en plus, parcouru. Il allait jusqu'en Algérie, Bartok, pour aller récolter des chants populaires. Et là, récemment, je suis tombé sur un disque assez incroyable. Je ne savais pas du tout. Le grand pianiste italien Arturo Benedetti Michelangeli.
Qui a beaucoup joué du Debussy, je crois.
Qui était un pianiste peut-être le plus grand italien et peut-être un des plus grands du XXe siècle, avait deux autres passions, c'était la médecine et les voitures. Il adorait, dans son temps libre, prendre sa belle Ferrari et aller parcourir toute l'Italie. Mais il faisait ça avec un enregistreur où il allait récolter des chants populaires dans les villages. Et c'est sa seule œuvre musicale, c'est qu'il a récolté tous ces chants et il les a harmonisés. Il en a même sorti, il a autoproduit son disque. Évidemment, Dutch Gramophone n'en a pas voulu, mais il a fait un disque. Okay. Deux chants populaires italiens, et c'est très beau, c'est très très intéressant ce qu'il en a fait. Ça déborde un peu, mais voilà.
Est-ce que tu permets que je dise un tout petit mot sur François Tusk, sur cette question de l'hybridation, parce que François en a parlé. Je pense vraiment que ça peut intéresser les auditeurs de Radio Canu, parce qu'il y a un fil à tirer intéressant ici de la tradition contestataire, et pourquoi pas même un peu libertaire, qui est encore un peu vivante ici. Et dont François Tusk a été un acteur important. Imaginez-vous François Tusk, qui était un jeune Mao dans les années 60, et qui a été un des premiers musiciens, un pianiste autodidacte, à fréquenter les jazzmen noirs qui fuyaient le climat raciste épouvantable des États-Unis et qui arrivaient à Paris. De la génération du free jazz, en fait. Tusk est un des premiers à collaborer avec eux, c'est un des premiers musiciens de free jazz français, donc ça c'est deuxième moitié des années 60. Et très vite, en faisant du free jazz, il se rend compte que c'est un peu une sorte de rhétorique qui tourne à vide, quoi, l'improvisation collective, et il a envie d'inventer un nouveau langage. Et là, il pose un geste créateur qui nous intéresse à chaque fois, qui est justement cette question d'hybridation. Pour lui, le free jazz, l'improvisation collective, c'est la musique émancipatrice des Noirs américains, qui cherchent à dire que c'est leur musique populaire à eux. Et il va chercher à l'hybrider avec des musiques qui ont une fonction émancipatrice aussi, mais en France, dans la fin des années 60 et début 70. La musique des paysans bretons, qui ont leur gavotte, leur musique traditionnelle, qui est encore pour eux une musique de fête, en fait, et d'émancipation. La musique occitane, mais aussi la musique de tous les travailleurs sans papier qui vivent sur le territoire français, donc les musiques d'Afrique noire, d'Afrique de l'Ouest ou du Maghreb. Et il a créé, du coup, l'Intercommunal Free Dance Music Orchestra, je crois que c'est ça, l'Intercommunal Free Dance Music Orchestra, qui était une espèce d'orchestre à géométrie variable où venaient s'agréger tous les langages populaires du free jazz à la musique bretonne, à la musique, traditionnelle ou classique arabe, qui avait une fonction d'émancipation pour ceux qui la jouaient. Et ça donne des synthèses incroyables, totalement nouvelles. Et bah, typiquement pour nous, ça, c'est le genre de musique qu'on va présenter comme de la musique contemporaine.
Et est-ce que le mot dance apparaissait bien? C'est l'Intercommunal Free Dance Music Orchestra.
C'est ça.
C'est à 18h30, auditeur auditrice, mercredi 21 juin. Et c'est, il faut rappeler le tarif, hein, François.
C'est gratuit. C'est gratuit, ce sera Camille au platine.
C'est quand même cohérent, pertinent que ce que vous, le propos que vous tenez, Camille Rona, à l'instant, c'est pour un spectacle qui est accessible à tous.
C'est
à
ça, puis c'est la fête de la musique. Donc,
On a beaucoup cette année de propositions gratuites, même si on est obligé aussi de faire tourner la maison en ayant des concerts vraiment.
On en parle une seconde peut-être de ces tarifs, peut-être.
Oui.
D'ailleurs, ils sont trois types de tarifs. On ne va pas dans les 30, 50, 70 euros ou 80 euros.
C'est non, on n'est pas maximum. On n'est pas d'autres festivals.
On est à 20
en même temps. Le tarif étudiant est à 10 euros, le tarif normal est à 15 euros, le tarif de soutien Superspective, j'adore ce festival, je veux qu'il continue encore 10 ans, c'est 20 euros, et c'est gratuit pour les enfants à moins de 12 ans.
Et il existe deux passes, un pass qui vous permet d'assister à trois concerts payants pour 25 euros, et le pass pour l'ensemble des propositions sur les deux semaines et demie de festival pour 100 euros.
C'est-à-dire, c'est rien, on a plus de 26 événements, gratuits et payants, c'est même
ça. Ça fait 8 euros à peine par date.
Je le fais toujours et donc je l'ai fait à l'instant. Je vous ai coupé, François. Vous étiez lancé sur quelque chose. J'ai dit parlons des tarifs une seconde. Si c'était la gratuité pour le mercredi 21 juin pour la fête de la musique.
C'était un bon coupage.
Oh non, je suis sûr qu'il faudra retrouver la chose. J'aurais pas dû, mais pourtant il me semblait important.
Mais c'était sur les tarifs, donc on a accès.
Ah, c'était en rapport, bon.
Bonne question.
Je cherche depuis tout à l'heure, je n'arrive pas à retrouver le morceau que m'aviez recommandé tout à l'heure, Camille. Musique pour ameublement de rangement, je sais
musique
pas
d'ameublement d'Eric Satie.
J'arrive pas à remettre la main dessus.
Ah, oui, dans le coffret, c'est les premières pistes.
Je suis incapable de le retrouver. Non, j'y arrive pas. En revanche,
une prochaine pause musicale, on pourra.
Ou qu'est-ce qu'on pourrait mettre aussi? Est-ce qu'une autre proposition il fallait chercher au dos. Ah là là, il fallait chercher au dos.
François connaît bien cette intégrale puisqu'il l'a eu longtemps en sa possession. Peut-être que c'est le moment de raconter cette anecdote, François, pendant que Christophe.
Il ne l'a plus.
Mais le CD. Il s'agit d'une intégrale Satie chez
Erato.
Chez Erato. Avec
en CD.
C'est 10 CD pour tout Satie. Le coffret, bon, c'est quand même assez rare chez les compositeurs de faire l'intégrale de leur musique en 10 CD. Chez Ravel, on peut faire ça en 5-6, mais chez Satie, c'est 10. Il y a encore d'autres choses qu'ils n'ont pas enregistrées. Ah, bref, c'était un très beau coffret avec un bon prix. Et on avait le projet, il y a 2 ans, avec Camille, de confier... Parce que Satie, c'est quand même un fil conducteur récurrent de notre festival. Et on avait l'idée de confier une réinterprétation de la Messe des pauvres d'Eric Satie. Une très belle œuvre, très méconnue, mais qui est vraiment...
Elle y est ici, c'est des 10, je crois, il me semble.
Voilà.
C'est ça.
C'est une œuvre un peu plus difficile d'accès que les Gnossiennes ou les Gémiopédies, mais qui mérite, avec des très beaux textes. C'est une messe d'Eric Satie, une Messe des pauvres. Rien de mieux pour faire ça à la Maison Norette. Et on avait contacté l'unique, l'immense Jean-Claude Vanier. Jean-Claude Vanier, l'arrangeur des arrangeurs, celui qui a arrangé les plus belles chansons de Serge Gainsbourg, qui a connu toute la chanson française, qui a fait des albums extraordinaires, vraiment, en tant qu'arrangeur. En tant que chanteur, il a une carrière un peu plus réduite, un peu plus intimiste, mais nous, on aime bien. Et on est allé le rencontrer à Sète, pas très loin de Montpellier, là où je vis, et on avait passé toute une journée avec lui et sa femme qu'on salue, Jackie, à discuter d'Eric Satie en buvant du vin blanc. Donc à la fin de la journée, on savait plus trop de quoi en parler, mais on était quand même très heureux. Et je l'avais ramené ce coffret parce qu'il connaissait Satie de nom et il était curieux parce que le point commun qui s'était trouvé avec Eric Satie, c'est qu'il était autodidacte aussi. Jean-Claude Vanier, il n'est pas passé par les classes des conservatoires d'arrangement. Et donc, bien qu'il ait une carrière extraordinaire, il a toujours ce complexe des gens qui n'ont pas fait les études de conservatoire institutionnel. Donc il s'est quand même fait enregistrer par les plus grands musiciens et les arrangeurs. Il a côtoyé vraiment des instrumentistes de grand talent, mais il a toujours ce complexe, Jean-Claude Vanier, de ne pas se sentir à la hauteur des musiciens qu'il enregistre. Et donc il y avait ce point commun avec Eric Satie, qui lui aussi est un autodidacte, c'est-à-dire que quand il compose ses Gnossiennes et Gymnopédies, il a 20 ans, il n'a pas pris de cours de musique, ou si peu. Donc il y avait vraiment un intérêt. Finalement, le projet n'a jamais eu lieu, parce que Jean-Claude Vanier a été occupé à d'autres choses, et notamment un grand projet au Lit de Fourbière. Mais il a toujours mon coffret, donc si tu m'écoutes, Jean-Claude, rends-le-moi.
Rends le coffret.
Il a gardé le coffret.
Rends l'argent et rends le coffret.
Les CD, c'était le 3, je crois. Le 3 et le 1 sont donc calés pour écouter des choses complètement différentes. Sur laquelle partirions-nous? Est-ce que nous écoutons donc la musique d'ameublement?
D'ameublement, piste 19.
C'est carrelage phonique,
non? Ben non, justement, il y a le carrelage phonique, ou bien j'avais la gymnopédie, mais non.
Parce qu'il faut dire le titre des pièces chez Satie, qui est toujours un régal.
Dans les messes, tout à l'heure, il y avait un titre qui était assez... et pourtant, il n'y a pas trop d'humour dans celui-ci. La prière pour les voyageurs et les marins en danger de mort à la très bonne et très auguste Vierge Marie, Mère de Jésus. Ce qui est peut-être amusant, c'est le temps, 47 secondes.
On n'a pas le temps de niaiser. Hein.
c'est très bref. Donc, nous sommes sur la musique d'ameublement. Oui, ça me semblait bien, Camille, le carrelage phonique, mais on peut écouter également la tenture de cabinet préfectoral. La piste est un peu plus longue pour celle-ci.
Ouais, enfin, on écoute un extrait.
Eh bien alors, on va mettre le carrelage phonique. Peut se jouer à un lunch ou à un contrat de mariage. C'est à voir. Auditeurs, auditrices, ne lâchez pas l'antenne. Nous sommes bien en fort bonne compagnie pour parler de l'édition numéro 5 du Festival Superspective qui commence après-demain, vendredi 16 juin, se termine le dimanche 2 juillet. Des rendez-vous. On a déjà présenté 2 ou 3. Il en reste encore 16, c'est ça en tout? Non, 26 en tout.
On a à peine parcouru la programmation.
Donc, rien de rien. Ne quittez pas. c'est absolument terrible ce que je suis en train de commettre. Je suis alors qu'est-ce que j'ai lancé? Je ne sais même pas ce que j'ai lancé, mais bravo, ce n'était pas. Ah, François, vous avez bien réussi le défi que je vous posais.
Allez, on a gagné une place pour Perspective.
Voilà, super. Laquelle voulez-vous, le spectacle gratuit du mercredi 21 juin? Non, je vais bien retrouver le carrelage phonique. Oui, voilà. A priori, c'est bien celle-ci. Je ne sais pas ce que j'ai commis. Je ne sais pas, une boulette, ça arrive parfois. Auditeur, auditrice, on écoute bien. Le carrelage phonique peut se jouer à un lunch ou à un contrat de mariage. Nous étions donc au terme de cette, à la fois du morceau, de la pièce numéro 3, carrelage phonique de Musique d'ameublement 1918. Et François, vous étiez en train de commenter, c'est vraiment le propos, enfin l'idée d'Éric Satie dans cette...
En fait, Éric Satie, c'était quand même un personnage qui avait beaucoup d'humour, et son humour se traduisait souvent esthétiquement et musicalement. C'est-à-dire que là, il avait l'idée que de la musique... pourrait avoir une utilité comme un siège, une table ou un meuble. Musique d'ameublement. En fait, c'est la musique, il invente la musique utilitaire. C'est-à-dire qu'on a des tapisseries pour décorer un salon, on a une chaise pour s'asseoir, et ben lui, il invente la musique d'ameublement. Alors, c'est vraiment à but de combler un vide sonore. C'est-à-dire que soit ça nous aide à consommer mieux, c'est-à-dire à acheter plus, comme souvent dans les magasins, dans les parkings, je ne sais quoi, on a de la musique pour un peu nous annihiler nos pensées, nous pousser à consommer. Et ou soit nous accompagner dans un moment un peu neutre, un peu badin, et c'est de la musique d'ameublement. Donc c'est très répétitif, il y a un côté lancinant, ça peut être encore 10 fois refait pendant une heure, et ça a donné naissance à toutes les musiques qu'on met aussi parfois en valeur au festival, les musiques ambiantes.
On peut se questionner peut-être, Camille, François, sur comment nommer ça là, la récupération qui a donc eu lieu depuis Satie, et qu'en aurait-il pensé? Ça l'aurait... amusé, ennuyé, gêné, contrarié, ravi.
Alors, je pense qu'il aurait été très heureux de savoir à quel point il a pu influencer aussi avec son humour, c'est vrai. Parce qu'il y a une dimension de pochade poétique aussi dans la musique d'ameublement. Mais à quel point il a été important dans l'histoire de la musique au XXe siècle, et notamment grâce aux anglo-saxons, grâce aux américains et aux anglais, qui sont un peu moins frileux que les compositeurs franco-allemands dès qu'il s'agit de concepts déjà et d'humour. Et donc, il a eu une importance énorme via John Cage, via Brian Eno. Et j'imagine que ça l'aurait ravi parce qu'il avait quand même à cœur que sa musique soit connue, appréciée et prise au sérieux.
Tout à fait. Et pour rebondir là-dessus, Debussy l'appelait quand même Monsieur Précurseur. C'est-à-dire qu'il a été précurseur de plein de choses musicales, de formes, de façons de penser, d'envisager la musique. Mais dès qu'il mettait un petit pas dans une nouvelle chose, il l'abandonnait directement après. Il allait vers autre chose. Il pouvait pas dès qu'il avait une recette qui marchait, un concept intéressant, il se renouvelait en permanence. Mais en fait.
Peut-être que tu peux dire un mot, François, sur l'esprit dans lequel tu proposes le concert de samedi.
Oui,
parce que
Camille,
c'est très particulier comme
Rona,
expérience.
François Mardi-Rossian, je vous ai qualifié tout à l'heure, ce serait quoi le terme? Directeur artistique, c'est
oui.
Ça, du festival Superspective. C'est la 5e édition qui a lieu cette année. Vous, à la fois, je crois, 5e édition, et c'est aussi les 5 ans que vous fêtez, c'est ça? Parce que normalement, ça ne marche pas. La première édition, si, on l'a faite au bout. Bref. Parce que je veux dire, il y a 2020 à sauter, c'est ça, non?
C'était... Non, non,
non, vous avez même fait quelque chose en 2020.
On a fait une quinzaine culturelle et apprenante à la Maison de Lorette.
Effectivement, merci.
On a enfourché le tigre.
On a enfourché, ouais, très bon, et on a sorti dans la cave les sandwichs. Et on avait aussi fait un hommage et une œuvre de Satie. On avait fait une exécution in extenso des Vexations d'Eric Satie.
Au moins 15 pianistes, je crois.
Une œuvre qui te rendrait fou, je pense, parce que déjà les 2 minutes de carrelage phonique t'ont rendu dingue.
2054.
Pendant 24 heures, on a fait les Vexations, 3 lignes musicales. Joué 840 fois. On s'est relayé à plusieurs pianistes, Camille a joué aussi. C'était vraiment un grand moment, je trouve.
Ça, c'est intéressant.
Sur les terrasses, et il y a eu plein de monde qui passait. Et c'est un peu dans cet esprit-là que je vais faire ce récital samedi. Il s'appelle Saturday Night Fever. Très beau jeu de mots salué par les gens. Et c'est un long récital où je vais buissonner dans la discothèque idéale d'Eric Satie, c'est-à-dire en jouant ses œuvres. Des œuvres très connues, des œuvres méconnues, mais aussi des œuvres de compositrices et de compositeurs qu'on peut lui mettre un peu en regard. Et on a suscité d'ailleurs des commandes artistiques à des compositrices et des compositeurs pour rendre un hommage à Eric Satie, parce qu'il n'y a pas besoin d'anniversaire pour lui rendre hommage.
C'est intéressant ça, parce qu'il y a une autre date, et d'ailleurs on va donc parcourir un petit peu la programmation, il y a une autre date où sont conviés des pianistes non professionnels, c'est pour les 20 regards de l'enfant Jésus, d'Olivier Messiaen, et donc Camille, vous aussi, donc professeur de philosophie mais non pianiste, enfin disons si pianiste amateur, vous aviez donc contribué à ces 24 heures d'Eric Satie. J'étais en train de vous qualifier donc directeur artistique de ce festival de musique contemporaine Superspective, les dates commencent vendredi 16 juin, ça se termine le dimanche 2 juillet et donc il y a différents concerts, on a déjà présenté quelques dates, je reviens encore une fois sur ce samedi 17 juin, 20h30, Maison de Lorette, on n'a peut-être pas assez rappelé ce lieu, on en avait parlé lors de l'émission précédente, Pauline Jaricot, une belle bâtisse avec des terrasses, tout ça.
C'est splendide et surtout un bar extraordinaire qui ouvre à 16h dès ce vendredi. Parce que le festival.
Sans alcool aussi à 16h peut-être.
Oui. Il y a de l'alcool déjà à 16h, hein, il n'y a pas d'heure pour boire. Et donc vendredi 16 juin, ouverture du festival officiel à 16h. Venez tous parce que le concert d'ouverture est une création aussi originale.
James Stewart à 18h30 pour le premier DJ set de la saison. Il y en a un par jour. Et le premier concert à 20h30 est une création. Aussi la première d'un duo qui jouera sur scène, c'est Arandel, musicien électronique lyonnais, connu pour ses transcriptions de Bach.
Mais oui, mais je me disais plus.
Et avec Emmanuel Parenin, qui est figure fondatrice du mouvement folk ou néo-folk en France, ou de la folk expérimentale, on peut le dire de plusieurs manières. Donc en gros, l'idée c'est qu'il y a tout un répertoire à base d'instruments traditionnels, vielle à roue, harpe, psaltérion, épinette des Vosges, mais aussi des mini-moog et des sampleurs et des noisebox et tout ça. Et ça va être très très beau. C'est comme une sorte de chanson française de l'espace là que vous allez.
Que veut dire le mot Targala que je vois écrit c'est le titre ou
c'est le nom de son dernier album qui est une sorte de triptyque dans sa vie parce que son premier album qu'il a vraiment implanté dans la scène folk française s'appelait Maison Rose. Elle a sorti ensuite un autre album qui s'appelle Maison Cube, et là c'est Maison Targala. On est à la maison quand on vient écouter Emmanuel Parnin, et c'est d'ailleurs la maison de Lorette.
Sa quatrième maison du coup.
Donc ça c'est le premier concert, et il y a encore donc, d'autres dates à venir. Je viens d'évoquer les 20 regards de l'enfant Jésus, et est-ce qu'on en parle de ce
avec, 20 regards avec sur joie, l'enfant Jésus. Avec joie.
Interprété par plusieurs pianistes qui ne sont donc, nous l'indiquons un instant, pas des pianistes professionnels.
C'est des Ils ont un niveau professionnel.
Ils sont quand même très bons.
Ce qui les qualifie d'amateurs, c'est qu'ils ne vivent pas de leur art. C'est-à-dire qu'ils peuvent être ingénieurs, médecins, urgentistes, mais ils sont des pianistes amateurs de génie. C'est-à-dire qu'ils font, on les a entendus, on sait comment ils jouent. Ils jouent mieux que plein de pianistes qui sont de métier.
Vraiment. Ils font des concours internationaux de pianistes amateurs. Ça, c'est très particulier. Ils font des concerts et des concours, mais en tant que pianistes amateurs.
Et ils ont ce luxe, en fait, de pas non plus courir le cachet, et de pas accepter tout et n'importe quoi, et de pouvoir se consacrer à des répertoires bien particuliers. Et quand on leur a proposé ce projet des 20 regards sur l'enfant Jésus, il leur a fallu quand même quelques jours, parce que c'est vraiment une somme musicale incroyable. Techniquement, artistiquement, mélodiquement, enfin, c'est vraiment des choses très difficiles, très accessibles pour le public, mais pour les pianistes, c'est vraiment redoutable. Il y a une pièce qui est juste merveilleuse, qui est une fugue, une des plus belles fugues du XXe siècle, qui s'appelle « Par lui, tout a été fait ». Rien que le titre est déjà... Et c'est monumental. Je ne sais pas quel pianiste a choisi de jouer cette pièce, mais il a déjà tout mon respect. Parce que c'est une des pièces les plus difficiles du XXe siècle. Et ils se mettent à 6 pour défendre ces 20 pièces extraordinaires. C'est vraiment un voyage mystique.
Samedi 24 juin, est-ce que vous pourriez les nommer? Moi, je les ai sous les yeux, c'est les noms de ces pianistes, mais
on te laisse les nommer.
Je veux pas écorcher leur nom. Si Camille, vous avez révisé, non?
C'est. Bah, je les ai sous les yeux aussi. Alors après, on peut. Alors, il y a une femme sur les 6, c'est Anna Moati, et ensuite vous entendrez Florian Chevalier, Geoffroy Vautier, Arnaud Dupont, Mathieu Frima, et c'est Xavier Emono qui nous a permis de coordonner tout le projet avec ses autres pianistes qu'il connaissait. Et on est vraiment ravis, c'est une expérience unique d'entendre ces deux heures et quart en fait de musique d'un rang. Alors, particularité, comme la pièce a une réputation d'austérité, en fait, le langage de Messiaen a une réputation de musique
pourtant,
un petit peu austère.
La Turandot Galilée, symphonie,
une musique d'une richesse et pleine de couleurs incroyables. Les 20 regards synthétisent toutes les influences de Messiaen. Donc il y a l'Inde, il y a la musique médiévale, il y a la Grèce, il y a les oiseaux, enfin, on entend tout ça. Tout ça mis au service d'une conception, alors là, pas vraiment liturgique, mais religieuse, hein, c'est une méditation sur la crèche, tout simplement. Et en fait, pour rentrer dans une sorte de réceptivité à une grande œuvre, c'est pas toujours simple, on fait un petit partenariat avec notre fournisseur de vin, le caviste Radio Vino, qui a créé la première web radio consacrée au vin. Et l'idée, c'est de couper un peu ces deux heures avec quelques pauses de dégustation de vin pour se mettre dans une réceptivité via le vin, et je pense que chacun en fera un bon usage.
Si on avait fait un partenariat avec Radio Canu, on aurait peut-être servi de la cervelle pendant le concert.
Cervelle de Canu, fruit de la vigne et du travail des hommes.
C'est ça, on a sous-titré
de ce...
Le vin aussi a une fonction.
Ces 20 regards sur l'enfant Jésus. Une
destination même, spirituelle.
On écoute un peu de Messiaen.
Je n'ai absolument rien préparé, mais oui, très bien. Lequel?
Le premier, le regard du Père, qui est vraiment un thème splendide.
C'est typiquement ce qu'il aurait fallu. J'avais indiqué un peu anticipé, mais bon, c'est pas. Je retrouve l'élément. Peut-être une autre date. Non, l'adresse de la maison de Lorette, on l'a déjà indiqué. Qu'est-ce que.
Et ben pendant que tu mets le CD, on peut tout simplement dire un petit mot sur peut-être ce qui nous lie à la musique sacrée. Il y a plusieurs dates de musique sacrée dans le festival. Messiaen au piano pour une grande œuvre de répertoire. Vraiment associé à la musique contemporaine. Mais il y a aussi des choses plus surprenantes. On a parlé de Charlemagne Palestine
au
Grand Orgue de Fourvière le 30 juin. Et une date sur laquelle on aimerait insister, qui est vraiment une première en France et un concert exceptionnel, c'est le 25 juin, qui est un dimanche, où après des vêpres qu'on proposera gratuitement à la chapelle, hein, des vêpres grégoriennes pour
17h, 18h,
à 18h30, pour entrer dans cette idée que voilà, le grégorien est une musique de création, on proposera à 20h30 le premier récital en France de Begena. C'est un instrument de la tradition liturgique éthiopienne, orthodoxe éthiopienne, qui sera joué par Sozena Ghebreyesus, qui est une interprète de Begena. Il faut imaginer une grande lyre avec un son grave, un peu grésillant, qui passe pour avoir été la harpe du roi David pour composer les psaumes. Et cette grande harpe permet de s'accompagner dans des hymnes sacrés. Et ces hymnes sacrés remontent au premier temps de l'église éthiopienne, qui est une des plus anciennes du monde chrétien avec l'église arménienne. Et c'est une musique absolument sublime, que je vous recommande d'aller découvrir sur le site internet de Superspective, superspective.fr.
N'oubliez pas le .fr.
Et n'oubliez pas le .fr.
Et au pluriel, Superspective.
Tout à fait.
Super. C'est bien comment appeler ça, l'effigie, l'image que vous avez, super, spec, active. Ah, mais j'étais davantage, mais c'est plus la chaîne YouTube ou différents éléments, différents endroits, une belle police, je n'ai pas d'ailleurs identifié. Ouais. C'est pas Futura, c'est pas non plus Garamond. Bref.
C'est une lasagna retravaillée.
Ah voilà, c'est en gras, il y a des gras très épais, donc super spective, au pluriel.
C'est la typo. Oui. Ah oui, un mot en fait, puisqu'on est pas très loin des pentes de Locraus, cette typographie et ce logo super spective. On le doit à Laurent Massuero, qui travaille comme artiste et typographe sur les pentes de la Croix-Rousse et qui a, je crois, son atelier rue René Lénaud. Vous pouvez aller le visiter, soit sur Palme Gravure sur Facebook, et il fait une exposition, je ne sais plus exactement où, mais dans une galerie que vous pourrez repérer sur Facebook en suivant Palme, P-A-L-M, Gravure.
Juste avant le premier thème de l'enfant, le premier regard sur l'enfant Jésus, c'est bien à 18h30 aussi qu'il y a le 24 juin, le samedi 24. Non, alors c'est la veille. Ah, je pensais qu'on était le 25. Mais 18h30, le 24, voilà, c'est à nouveau Radio Vino, DJ 7, puisque c'est ça, c'est DJ 7 tous les jours. Et c'est à 18h30 et c'est toujours gratuit. Nous écoutons une version de Roger Muraro qui n'est pas la meilleure, c'est enregistré en 98.
Si. Qu'est-ce que tu dis, Christophe, enfant ?
N'importe quoi, comme toujours.
Vous êtes toujours sur Radio Canus, c'est Christophe Rollin qui tient l'antenne aujourd'hui. Nous sommes en compagnie de François Lagneau, nous sommes en compagnie de Camille Ronat, co-directeur du festival Superspective, festival qui fête sa 5e édition du 16 juin au 2 juillet à la montagne de Fourvière, au 42 Montée Saint-Barthélemy. Tout de suite, on enchaîne avec une pièce de Nathalie Morazin qui sera au festival en compagnie de Denis Chouillet.
Thank you.
à l'écoute, finalement, c'était pas Nathalie Morazin qu'on va écouter bientôt, mais Frédéric Lagneau dans un titre intitulé Morning Song of the Jungle Sun, qui fait sans doute référence à la musique indienne, à Kipling et peut-être pourquoi pas aux Beatles. Et vous pourrez entendre la musique rare et superbe de Frédéric Lagneau le jeudi 29 juin dans un double récital où on reçoit Nathalie Morazin et Denis Chouillet, qui jouera en plus des œuvres de Frédéric Lagneau quelques-unes des siennes, puisqu'il écrit aussi.
Des carrelages phoniques.
Certains, effectivement, baptisés carrelages phoniques à la suite de Satie. Et on a décidé, avec François, de baptiser cette soirée d'un genre nouveau, mais qui a du coup un premier début d'histoire intéressant, qui est le minimalisme de terroir. Le minimalisme, c'est une musique qui est née dans les grandes capitales américaines avec son lot de gratte-ciel, de bruit et de klaxon. Et c'est un genre qui s'accommode très bien d'espaces plus ruraux, plus apaisés, plus calmes. Nathalie Morazin qui vit et travaille dans un village drômois. Et Denis, je crois qu'il est du côté de la Normandie, au Vert. Et on va écouter maintenant un extrait de Nathalie Morazin.
À Superspective, on met en valeur des musiques peu entendues à Lyon et qui sont vraiment remarquables. On arrive en fin d'émission et il est peut-être temps avec Camille, avec Christophe, d'évoquer les concerts en fin de festival qui vont toucher le début du
Quel
mois de juillet.
Quel festival !
Incroyable ! Incroyable !
On a nommé le festival ?
Je crois que ça s'appelle Superspective, non ?
Superspective, à ne pas confondre avec Superstructure, qui est un concept marxiste.
Ou les Subsistances.
Superposition, qui n'existe plus, ou les Subsistances, qui sont un petit peu plus bas dans la topologie lyonnaise.
Ou alors, comme dit Radio Nova, Superspective.
Aussi.
Ah, ça c'est sympa.
Ils viennent de sortir un article avec Superspective.
Aujourd'hui, c'était Superspective.
Ils vous ont laissé que 21 minutes, j'ai vu, d'interview. Je les ai même pas écoutés.
C'est des bons partenaires, mais c'est vrai qu'à Radio Canu, on a vraiment l'antenne libre.
Ah, c'est sympa, c'est sympa. Donc, édition numéro 5. Et c'est la Maison de Lorette, on a indiqué, en sortant du métro, ou pas forcément.
Funiculaire, vous descendez les Jardins du Rosaire, c'est très joli, ça sent bon, il y a des oiseaux. Ou sinon, vous grimpez depuis Saint-Jean par la montée des Chazots, qui est sportive, ou à partir de Saint-Paul par la montée Saint-Barthélemy, ce qui est un peu plus sympathique.
Et
un peu plus
long, aussi, peut-être. Ceux qui ont des voitures et qui veulent venir en dehors de Lyon à ce festival, sachez que sur la montée Saint-Barthélemy, au niveau de la Maison de Lorette, il y a tout le temps des places. En fait, les gens ne se garent pas là parce qu'après, ils ont la flemme de remonter. Mais pour le festival, c'est idéal. Vous venez avec votre voiture, vous posez devant la maison, vous kiffez le concert et vous ressortez. Vous avez votre voiture juste devant.
Alors, on peut boire, manger, on peut tout faire.
On a parlé du week-end d'ouverture qui est ce week-end, du 16 au 18 juin. Et il est temps maintenant de vous parler du week-end de clôture, le 1er et 2 juillet. Donc après le grand concert de Charlemagne-Palestine le 30 juin à la Basilique, il y a deux magnifiques concerts à la Maison de Lorette qui nous permettront de nous dire au revoir en beauté. Le premier, c'est donc le 1er juillet. Un nom un peu cryptique, Lily Joël plays the organ, avec Lynn Cassier et Joseph Dumoulin. Je laisse François le présenter.
Joseph Dumoulin, pour ceux qui nous suivent, était venu l'an passé faire un récital inoubliable. C'est un claviériste, pianiste, mais qui a, depuis quelques années, s'est investi dans le Rhodes, le Fender Rhodes, cet instrument aux lamelles métalliques avec un son vraiment très particulier. Et il a tout un panel de pédales électroniques pour sortir des sons de l'espace. Vraiment, c'était un concert qui nous a mis vraiment par terre. Il a sorti un album qui est magnifique, qui est chez Carton Records, qui sont nos amis et qui produisent aussi le concert d'Emmanuel Parnin et d'Arandel. Mais là, il vient avec une chanteuse qui s'appelle Lynn Cassier, une Belge, ils sont tous les deux Belges. Et ils viennent à l'orgue positif et à la voix pour faire un récital autour et avec de Hildegard von Bingen, cette grande figure musicale qu'on avait mis déjà en valeur l'an passé avec le récital de Clara Levy au violon. Et cette année, il se base sur les monodies, les chants sacrés qu'a composé Hildegard von Bingen pour créer une musique assez irréelle, tourner, l'harmoniser, la boucler, la rendre aussi nue, telle qu'elle. Ça va être un récital assez extraordinaire et ils vont mettre aussi des œuvres de Schumann et de Tom Jobim en regard de ce récital. Et c'est le 1er juillet, c'est à 20h30 à la Maison de Lorette.
Le samedi, c'est ça ?
C'est le samedi 1er juillet et le lendemain 2 juillet, donc un dimanche, la journée de clôture du festival. Après un DJ set sur le Gamelan à 18h30, on aura la joie de recevoir l'ensemble Zéro dans une formation assez copieuse, puisque ce seront 11 musiciens que nous recevrons sur la grande scène de la Maison de Lorette. Vous allez voir qu'elle n'est pas si grande cette année, mais qui est très belle. 11 musiciens pour jouer un répertoire... on va dire unique, inédit, avec pour partie du vraiment du répertoire minimaliste. On va faire jouer la pièce Four Organs de Steve Reich, qui est une pièce du début des années 70, inspirée de Perrotin. Une pièce très statique à l'orgue, mais très belle. Et la pièce principale a un titre étonnant, Posgariada, ça vient du basque, c'est une adaptation musicale de poème d'un prêtre basque, et Posgariada, ça veut dire c'est un bonheur. C'est une pièce avec une instrumentation très particulière pour quatre orgues, soprano, des flûtes, des instruments médiévaux comme le rebec et la chiffonie, et un gamelan, cet ensemble de d'instruments à percussion, de gong, de métallophone qui vient de la musique indonésienne, balinaise et javanaise. Et c'est une pièce sur la joie de l'enfance, sur l'innocence, une pièce minimaliste avec une atmosphère extrêmement belle, sereine, joyeuse, et qu'on doit à un compositeur dont on entend peu parler, mais dans lequel on croit beaucoup avec François, qui est le croato-canadien basque Petar Klanak.
Ça fait une belle origine, ça, le croato-canadiano-anglophono ou basque, québécois.
Je pense québéco-basque.
Ah, ça va vraiment être un concert extraordinaire. Imaginez quatre orgues, un gamelan, deux instruments sur une scène pour une œuvre d'une beauté, juste, c'est sidérant. Je pense qu'on n'avait pas pouvait pas trouver mieux pour clôturer cette cinquième émission.
Et un grand merci à Stéphane Garin, qui est le percussionniste et qui dirige, on peut dire, l'ensemble Zéro, de nous avoir proposé. C'est pas un projet facile à mettre en place et on est très content de pouvoir proposer ça au public lyonnais.
Dépêchez-vous, il reste des places.
Je suis sur cette dernière page, effectivement, du programme, et je vois, c'est un jeune compositeur, à peine une cinquantaine d'années, ce Petar Klanak, et puis effectivement Stéphane Garin, qui permet, avec la complicité même de Sylvain Chauveau et de Joël Mera,
et Denis Chouillet, toujours au piano,
de rendre possible ce moment. Comment procéder pour se dire au revoir ? Moi, j'avais quelques annonces à faire, mais passé 14h59, que vous dire ? C'est la fin de saison, du théâtre, il n'y en a plus beaucoup, la musique, guerre, les expos un petit peu, les festivals, Nuit de Fourvière, ça a commencé. Et sur perspective, ça va commencer après-demain. Le théâtre, il y a une pièce Iphigénie, dans une version, non pas d'Euripide ou de Sophocle, ni d'Eschyle, quoique je ne pense pas qu'Eschyle ait écrit une Iphigénie, c'est la version de Thiago Rodrigues, écrivain dramaturge contemporain, qui donc donne sa pièce au Théâtre des Célestins, la petite pièce La Célestine, et puis c'est tout. Auditorium, il y a la 9e de Beethoven qui est donnée demain et samedi. Enfin voilà.
Toujours entendu, allez à Super Spectacle. Vous entendrez vraiment des musiques.
Et puis l'opéra, dans 10 jours, il y a le dernier ballet, parce qu'il n'y a plus d'opéra, le dernier ballet avec une musique de Gavin Bryars. Il y aura le fameux Jesus Blood Never Failed Me Yet. C'est pour Quintet ou pour NNNNN, je ne sais plus pour laquelle des œuvres. la musique de Game Bryan sera utilisée. Nous, pour nous dire au revoir, il est 15h, d'autres émissions vont commencer, peut-être Blues des Canuts dans quelques instants. Comment est-ce qu'on dit, on se dit au revoir? On écoute le To Be Honest de Christian de Queens, ou bien un titre de Moondog, lequel, qu'est-ce qui est bien dans Moondog? Une musique Fallatile Hands, ou bien Hands, ou bien du Alan Ovanus? Ou alors clin d'œil, j'ai du clin d'œil à Alain, éventuellement, Finkielkraut, j'ai le générique. ou encore, attention, hein, on a dit, il y a tout type de musique, il y aura quelque chose d'assez, comment qualifier, classique, de Bach. Les suites pour violoncelle seront données.
Le 18 juin, c'est-à-dire ce dimanche.
On peut écouter le prélude de la première suite.
Ah bah allez, c'est magnifique pour se dire au revoir, je crois, non?
Par
Camille.
On proposera donc la première suite de Bach pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach par Astrid Cyranocian, ce dimanche 18 juin à 20h30.
Les tarifs pour les répéter, aller comme ça en fin d'émission, 10€ étudiants, 15€ tarif normal et 20€
tarif de soutien, les amis de Superspective.
Les amis de Superspective. Auditeurs, auditrices, on n'aura pas tout dit. Si vous souhaitez en savoir davantage, rendez-vous sur le site superspective.fr. Il y a une page Facebook, Instagram ou un peu de réseau.
Instagram et Facebook, on vous recommande de nous suivre.
Bon, je mettrai ça. Et puis peut-être aussi la brochure, une belle brochure avec
une belle
couleur cette année, un beau livret. On reparlera, promis. Hein. Il faudra qu'on se fasse une émission, Frédéric Lagneau, je sais pas, deuxième semestre 2023, premier semestre 2024, on essaiera de voir quelque chose, hein. Il faudra trouver une date. Auditeurs, auditrices, les émissions à venir, Blues des Canuts peut-être à 15h02, 15h03, sur les réseaux sociaux encore, à voir, Mayday à 18h, Canu Info à 19h, 20h, Il est Noir, émission de l'UCL, 21h, la bande son de nos révoltes, a priori, plutôt qu'à l'Est l'Éden, et enfin à 22h24, à minuit, titre d'émission, et j'aime toujours bien l'annoncer, je demande souvent aux invités ce qu'ils en pensent, titre, Boulimix. La thématique de l'émission Funkystery, tout accroché, Funkystery, il y a même plus le H qui est là. Est-ce que c'est pas du super perspective? Non, du super perspective justement. Bam,
un beau néologisme.
Il y a une syllabe qui saute. Écoutons la version. Elle est bonne celle-ci, François, de Yo-Yo Ma.
Un des grands violoncellistes d'aujourd'hui, ouais.
Certes, mais en termes de.
Oui, c'est très bien.
On a du Pau Casals, oui, c'est du.
Ça vaut pas certaines versions de Keras, mais c'est très bien.
Et nous disons au revoir à l'année prochaine. Ce sera quoi, le mercredi 13 juin peut-être 2024
pour sortez vos agendas.
Super Perspective numéro 6.
Si on est encore là, c'est pas trop chaud. Hein.
Mais avant, il faudra qu'on se retrouve. Richard Robert Underground, vous y repasserez peut-être.
Oui, bien sûr. On sera là. On peut faire une émission, non?
Bon, ben on peut.
Mais retrouvons-nous surtout cet été à la Maison de Lorette.
42 Montée Saint-Barthélemy, superspective.fr.
Portez-vous bien. Au revoir tout le monde.
Au revoir. Thank you.